Bouchard en parle.
Actualité.
Actualité.
Analyse.
Entrevue.
Opinion.
Opinion. Et vos commentaires. Tout ce que vous devez savoir.
Bouchard en parle. Au FM 93.
10h38, on va revenir bien sûr sur cette histoire de la fillette de 7 ans qui est décédée à Granby dans les derniers jours. On ne fait que parler de ça depuis 48 heures et il faut continuer à en parler, il faut pas arrêter. Je vais aussi vous préciser qu'à 7h40, je vais vous présenter une entrevue que j'ai pu faire hier en fin de journée avec Paul Arcand, qui est en onde en même temps que nous tous les matins. Alors c'est difficile de lui parler en direct, mais j'ai voulu avoir son point de vue sur la situation, sur la DPJ, parce que Paul Arcand a réalisé un documentaire il y a plus de 13 ans maintenant qui dénonçait certaines pratiques de la DPJ. Ça s'appelait Les voleurs d'enfance. Alors, j'ai pu lui parler hier soir. On va vous présenter tout ça à 7h40. Alors, si vous n'êtes pas en train de l'écouter présentement, mais vous allez quand même avoir l'occasion d'entendre sa voix. Et c'est très intéressant là, ce qu'il y avait à dire là-dessus. Alors, je vous invite à être avec nous à 7h40. Mais juste avant, Alexis, hier, tu as pu parler à des gens qui ont été impliqués directement et indirectement par ce drame-là. À qui tu as pu parler exactement?
J'ai parlé avec Henri Lafrance, qui est le président de l'Association des grands-parents du Québec. L'association des grands-parents du Québec font des rencontres, des réunions entre grands-parents qui veulent se rassembler dans diverses régions au Québec. Et lui avait déjà rencontré la grand-mère paternelle de la petite fille qui est morte du côté de Granby. Donc, la grand-mère qui a eu la garde de cet enfant-là, elle l'a eu pendant 4 ans. Et il l'a connue, cette grand-mère-là. Et lui, pour résumer ce qu'il dit, il dit cette grand-mère-là, elle cherchait par tous les moyens à venir en aide à sa petite fille, sauf qu'elle se heurtait à un mur. Et ce mur-là, c'est la DPJ. Et lui, ce qu'il raconte, c'est que, notamment, cette grand-mère-là était très, très dévouée et elle a fait plusieurs efforts pour essayer de venir en aide à sa petite-fille.
Elle s'est dévouée pour cet enfant-là lorsqu'elle l'avait, mais après, elle a signalé à la cour, entre autres, que le père était inadéquat, même son propre fils. Elle était tellement imbue de l'intérêt de sa petite fille qu'elle a mentionné ça. On l'a pas écouté. La DPJ l'a pas écouté. Le juge l'a pas écouté. Ça pouvait plus faire grand-chose. Elle venait de s'informer auprès des autres grands-parents qu'est-ce qu'elle pouvait faire de plus. Sauf que elle était face à un mur. Puis le mur, c'était pas juste la DPJ, parce que même le juge a pas reçu son témoignage. Cette grand-mère-là a pas réussi à protéger sa petite fille comme elle aurait voulu.
Oui, je comprends là, son point, mais ma lecture un petit peu de la situation, c'est que je pense que la grand-mère, avec toutes les bonnes intentions du monde envers sa petite-fille, je pense qu'elle a réellement voulu la protéger. Par contre, ce qu'on apprend dans la presse ce matin, c'est qu'elle a peut-être pas utilisé les bons moyens pour arriver à ses fins. Elle a entre autres menti à la DPJ. On apprend ce matin qu'elle a fait de faux signalements contre son fils, entre autres pour des abus sexuels et diverses autres d'autres signalements. Et c'était pas la bonne façon de faire, parce que tu peux pas mentir à la DPJ quand tu essaies d'avoir la garde d'un enfant. C'est une des pires choses à faire. Ouais. Tu peux pas briser le lien de confiance avec eux. Par contre, je pense pas qu'elle était mal intentionnée. Je pense qu'elle avait aucune confiance en son fils pour s'occuper de son enfant et elle a tenté, par ses propres moyens, d'arriver à une décision autre que de laisser la petite fille avec son fils. Malheureusement, ça a pas fonctionné. Tout ce qu'elle a réussi à faire, c'est de briser le lien de confiance entre elle et la DPJ.
Ben, c'est ça. Et il en parlait aussi de ces signalements-là, que ce soit de cette grand-mère ou des grands-mères ou des grands-pères, grands-parents en général. Il dit, quand vous... T'sais, on les prévient. Quand vous faites des signalements, soyez assurés de ce que vous avancez.
Ouais,
parce que sinon, non seulement la DPJ va revenir contre vous, mais ça aidera pas l'enfant non plus. Puis à ce moment-là, quand ta crédibilité est mise en doute, par là, ça l'aide pas. Parce que ce qui arrive, puis c'est ce qu'il expliquait, c'est que souvent, il y a des grands-parents qui vont hésiter avant de rapporter que leurs enfants ou leurs petits-enfants seront victimes de ce genre de traitement-là, parce qu'ils vont y confier dans une autre famille. Et là, ben, ils vont complètement perdre le lien d'attachement. Il me racontait aussi qu'il l'a rencontré à quelques reprises, cette grand-mère-là, et que ce qu'elle lui expliquait, c'est qu'après, notamment, qu'elle ait dénoncé son propre fils, elle se retrouve complètement exclue de la famille.
Elle parlait des situations que c'était dur, que c'était pas facile, puis que l'enfant, elle savait que sa petite-fille, mais elle était exclue, là. Le père, s'il avait sorti l'enfant de l'école pour pas que l'école fasse un signalement à DPJ, bien avant ça, il avait exclu de la vie de sa petite fille, sa grand-mère. Parce que les grands-parents qui ont plus accès à leurs petits-enfants, là, ils ne savent plus rien de leurs petits-enfants. Puis d'ailleurs, lorsque les grands-parents nous téléphonent pour dire qu'ils soupçonnent des choses comme ça, bien, on leur dit, essayez de garder quand même le contact, parce que vous allez en savoir plus. Si vraiment il y a des choses épouvantables qui se passent, bien, là, vous pourrez vous aurez des arguments pour convaincre la DPJ d'intervenir. Mais si vous n'êtes pas sûr, si vous portez plainte tout de suite, sans être sûr, sans avoir plus d'éléments, ils vont vous revirer. Puis après ça, ils vont prétendre que vous êtes que vous lancez toutes sortes d'accusations à tort et à travers.
Ouais, il y a une décision par exemple qui a été rendue par le tribunal avec laquelle je suis pas d'accord du tout. C'est quand ils ont empêché la grand-mère d'avoir des contacts avec la petite fille après ça. Je peux comprendre que c'est pas correct de mentir, c'est pas correct de faire des faux signalements, mais de couper tout contact aussi avec la personne qui vous a élevé depuis votre naissance, je suis pas certaine que c'était la meilleure décision dans le meilleur intérêt de l'enfant. Faut savoir que cette petite fille-là, elle avait tout ce qu'elle avait connu comme parent, comme figure parentale jusqu'à 3 ans et demi à peu près, c'était sa grand-mère. Ouais. Et là, le tribunal dit, vous avez plus le droit d'avoir de contact avec elle. Pas sûr que c'était dans le meilleur intérêt de l'enfant. Là.
Et lui a eu la chance de lui parler pour la dernière fois il y a un peu plus d'un mois et demi alors qu'il l'avait rencontrée, elle. Et à ce moment-là, elle était complètement consternée là, par la situation dans laquelle se trouvait sa petite fille.
Oui, elle avait beaucoup de peine, c'est sûr. Puis au moment où on se parle, elle en a encore plus, là, c'est sûr. OK. C'est triste à mourir, une histoire de même, puis hélas, la petite fille est décédée. On lui envoie un courriel de sympathie. Ça doit être dans tous ses états, comme on dit, là.
Alors, c'est sûr que tu dois te sentir impuissant. Tu dois sentir que tu n'as pas tout fait ce qu'il fallait que tu fasses pour protéger cet enfant-là. Il y a beaucoup de gens qui doivent se sentir coupables en ce moment de ce qui est arrivé. C'est sûr que de se culpabiliser à l'infini, je pense pas que c'est la chose la plus santé à faire pour entreprendre un processus de deuil. Les personnes qui sont concernées puis qui doivent se sentir coupables, je pense qu'ils se regardent dans le miroir ce matin et qu'ils se sentent coupables. Ceux qui n'ont pas à se sentir coupables puis qui se sentent comme ça quand même, je vous dirais de prendre un certain recul parce que j'ai pas de leçon à donner à la personne, mais je suis pas sûr que c'est la meilleure chose à faire pour avancer là-dedans non plus. Là.
Et tu sais, tout à l'heure, je te parlais que la grand-mère avait été exclue parce que de la famille, tu sais, naturellement, là, après tout ça, parce qu'elle a signalé non seulement son fils à la DPJ. Et on parle souvent de, tu sais, de la confidentialité qui règne autour de la DPJ. Non, on veut pas commenter tel dossier, puis on commandera pas tel dossier. Sauf que ce que lui me disait, c'est que selon son expérience et selon ce qu'on lui rapporte, si la DPJ hésite à ce point-là à commenter les cas, parfois, elle donne pas mal de détails aux parents à savoir qui a porté plainte. Et lui me disait que souvent, il allait aller donner pas mal d'indices jusqu'à ce que les parents sachent même qui portait plainte.
Le pire, c'est qu'il y a des fois que la DPJ, même si c'est soi-disant confidentiel, la DPJ dit carrément, c'est les grands-parents, des fois. Mais ce qui arrive plus souvent, c'est que les intervenants de la DPJ donnent suffisamment de détails sur la plainte que les parents déduisent carrément. C'est les grands-parents qui m'ont rapporté à la DPJ. Ils verront plus mon enfant, ça, c'est pour la vie.
Ah non, c'est sûr. Bien, merci beaucoup, Alexis, de nous avoir apporté les propos de cette personne-là. Au 25-226, il y a beaucoup de gens qui reviennent sur le fait que la grand-mère avait menti à la DPJ. Vous semblez être très sensible à ça. Il y a des gens qui disent, jusqu'où vous seriez prêt à aller, même en ajoutant un peu trop pour sauver un enfant des mains de quelqu'un que vous savez peut-être nocif pour l'enfant.
Parce que la fin justifie les moyens, finalement.
C'est ça, l'affaire. Mais là, évidemment, je vous rappelle qu'on a une version de l'histoire.
Puis
tout ça tient sur un document, sur un jugement qui date de mai 2018, mais on n'était pas dans la famille. Je ne sais pas dans quel contexte tout ça s'est fait. Il nous manque beaucoup d'informations. Fait que c'est facile de jouer au gérant d'estrade puis de se fier à quelques faits à gauche puis à droite pour se faire une opinion. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle aurait fait de faux signalements au juge et à la DPJ pour essayer de sauver cet enfant-là. Est-ce qu'elle l'a fait dans les meilleures intentions du monde? Probablement, je ne sais pas non plus, je ne la connais pas, mais c'est sûr que c'est facile d'avoir une opinion là-dessus, mais c'est difficile de savoir exactement ce qui est arrivé tant qu'on n'a pas vécu la situation de près. Il est 6h48.
Doc Mailloux et José.
lundi au vendredi, dès 9h30.
OFM 93.
Avec plus de 3000 luminaires et des rabais de 25 à 50%, créez l'ambiance de vos rêves maintenant chez Luminaire Napère. Suspendus, muraux, extérieurs, un lustre en cristal et chrome, normalement 400 $, réduit à 249 $. Un lustre en bois très tendance, normalement 300 $, réduit pour 149 $. Pour un seul luminaire ou pour toute la maison, profitez des rabais allant jusqu'à 50% sur tous les luminaires pour un temps limité chez Napère à Sainte-Marie, à seulement 20 minutes des ponts.
Pourquoi autant de gens achètent un Arctic Spa? Constatez-le vous-même chez Club Spa. Ils sont les seuls à pouvoir être munis du système d'entretien de l'eau automatisé Spa Boy. Pour un temps limité, sur les Arctic Spa sélectionnés, c'est Club Spa qui paye les taxes. Club Spa, à Beauport et l'Ancienne Lorette.
Avez-vous entendu parler de Tresiba? L'insuline Degludec Tresiba est offerte avec le dispositif privilégié FlexTouch. Tresiba est couvert par la Régie de l'assurance maladie du Québec, ou RAMQ, comme médicament d'exception, et aussi par la plupart des régimes d'assurance médicaments privés. Consultez votre médecin dès aujourd'hui pour savoir si Tresiba vous convient.
Yabadabadabadou, l'été s'en vient. Ah, oh, mais vous portez des orthèses. Pas de problème, passez voir les orthésistes du pied de Québec. Ils vont vous fabriquer des orthèses plantaires, incluant une sandale Mephisto. Et vous achetez du fabricant, donc c'est moins cher. Les orthésistes du pied de Québec, 375 Soumande.
Quand vous allez parler de cannabis avec vos ados, il y a des grosses chances que vous soyez tenté d'avoir ce genre de conversation.
Ma grande, faut qu'on se parle de cannabis. Je le sais que tes amis fument. Il n'y a pas question que tu te laisses influencer. Si je te pogne avec du pot, t'es privé de sortir pour un méchant bout, ma fille.
Hey, relax, pas.
Ou vous pourriez plutôt vous pratiquer avec nos ados avant de parler aux vôtres. Inscrivez-vous à l'une de nos séances de pratique pour parler de cannabis à pratiquezvous.ca. Un service offert gratuitement par Jeunesse sans drogue Canada.
Cet été, agrippez le plaisir à deux mains grâce à SM Sport. Sur toutes les motos Abrilia 2018, profitez d'un financement à partir de 1,99% ou d'un rabais allant jusqu'à 1 250 $ jusqu'au 31 mai chez SM Sport Boulevard Valcartier.
Pour son dernier concert pop de la saison, l'Orchestre symphonique de Québec vous offre un voyage orchestral des plus somptueux avec Catherine Major.
Fais-moi tout bout à bout.
Pour quelques chansons, elle partagera la scène avec une artiste à l'énergie contagieuse, Ariane Moffat, et avec le pianiste coloré Antoine Gratton. Les jeudis et vendredis 23 et 24 mai prochains, au Grand Théâtre de Québec. Une présentation des coups de poudre Hydro-Québec.
Les stations Cogeco présentent le succès économique du jour.
Avec ses nouveaux partenaires d'accès industriel, Gélico agrandit ses installations des vins en Abitibi, un projet de près de 6 millions de dollars. En juin, les opérations de cylindrage et de machinage de la nouvelle entité de production seront concentrées à Évin et Gélico aura vu doubler son personnel avec l'arrivée des 30 employés de son nouvel associé.
Le succès économique du jour, une initiative de la Fédération des chambres de commerce du Québec et Cogeco Média.
Jusqu'à 9h30, c'est Bouchard en parle.
Bouchard en parle avec toute l'équipe.
FM 93. Ça me parle.
6h51, on va revenir bien sûr sur le cas de la fillette. Je sais que vous avez beaucoup de réactions, 25226. Je sais que c'est de ça dont vous avez envie d'entendre parler. Et inquiétez-vous pas, on va en parler abondamment encore. On va vous présenter des extraits de l'entrevue du ministre Lionel Carman qui a donné à nos collègues du midi hier. On va vous présenter aussi une entrevue qu'on a fait avec Paul Arcand hier soir, qu'on va présenter ce matin pour savoir un petit peu c'est quoi ces vues. 13 ans après un documentaire qui dénonçait les pratiques de la DPJ, qu'est-ce qu'il pense de ce cas-là? Mais on va aussi parler de d'autres choses entre-temps parce que disons que la vie a continué à tourner là, depuis hier. Et puis, c'est quand même passé des affaires. Et il est arrivé quelque chose très près de chez nous hier, à Québec, en fait, à l'aéroport de Québec.
Ben oui!
On aime ça en parler de l'aéroport.
Ça faisait longtemps.
On s'ennuyait. Ouais. On s'ennuyait. Parlons de l'aéroport un petit peu. Ça me manquait. Qu'est-ce qui est arrivé encore à l'aéroport hier? Ben, en fait, si vous êtes allé à l'aéroport hier matin pour un vol en matinée, vous avez peut-être remarqué que ça a été un petit peu long passer la sécurité.
Tu es en train de me dire qu'à l'aéroport de Québec, il y a des problèmes.
L'aéroport international, Jean Lesage.
Oui, parce que ça me surprend, là.
Précise, parce que c'est important.
Oui, international.
International, Jean Lesage. Ça a pris combien de temps à passer la sécurité hier, Alexis?
Une heure hier matin.
Et pas passer les douanes, de passer la sécurité.
La sécurité. Mais oui. L'auditrice qui m'a contacté, prenait un vol vers Toronto. Puis elle est habituée à voyager souvent dans le cadre de son travail. Et elle a dit, hier, l'attente était interminable à l'aéroport. Elle dit, j'arrivais vers 8h15 pour mon vol. Mm-hmm. Puis tout de suite, on s'est fait avertir par la sécurité, aller passer tout de suite la zone de fouille, la zone de sécurité, parce que c'est long ce matin.
Ah!
Pourquoi?
Ouais, pourquoi c'est long?
On déménageait une zone de fouille.
Déménager une zone de fouille?
Ouais. Et la zone de fouille est rendue désormais au centre de l'aérogare. Ils l'ont déménagée pour que ce soit plus simple.
Mais t'as coupé la moitié des employés qui faisaient les fouilles temps que le déménagement.
Pénurie de
main
d'œuvre.
Pénurie,
oui. Faut s'adapter. Faut s'adapter.
Mais non, mais l'endroit n'a rien à voir avec la durée, là, la durée d'attente.
Ben, je vais laisser Mélanie et Vincent qui m'ont contacté expliquer la situation hier.
On arrive là, il y avait peut-être l'équivalent d'une cinquantaine de passagers déjà en file devant nous. Et ça nous a pris 55 minutes avant de pouvoir franchir la sécurité. C'était interminable. On nous a dit que c'était parce que c'était une nouvelle zone. Bon, mais moi, quand je suis un voyageur fréquent, presque toutes les semaines, là, je voyage un peu pour mon travail et tout ça. Alors, j'ai souvent affaire à aller à l'aéroport. Puis j'ai pas vu nécessairement de différence dans les équipements ou dans quoi que ce soit. C'était les procédures habituelles, mais c'était encore une fois interminable. C'est pas la première fois. C'est pas la première fois non plus que je m'en plains. Comme je vous dis, je voyage souvent. Mais en même temps, si personne le dit, ben les choses changeront peut-être pas.
Alexis, est-ce que Mélanie et les autres passagers ont eu droit à une attente dans le plus beau salon VIP en Amérique du Nord pendant qu'il y avait des retards à la sécurité?
Non, malheureusement.
Ou de lire la plus belle infolettre qu'on peut retrouver dans les aéroports.
Dans le plus beau salon VIP. Oui, lire l'infolettre dans le salon.
Ils ont gagné le prix du meilleur salon VIP. Ils ont aussi gagné le prix de la meilleure infolettre. Ouais.
Effectivement.
Et consulter le plus beau site Internet.
Absolument, oui, le site Internet aussi était là-dedans.
Le Wi-Fi était cœur à ce qu'il paraît.
Ah, il y en a eu 14 prix, en tout cas, donc il faudrait peut-être... oui, dans le plus beau stationnement chauffé. Mais donc, là, tu vas me dire que le déménagement, c'est la seule raison de cette attente-là. Ça a pris une heure à passer la sécurité.
Bien, j'ai décidé d'aller voir du côté de l'aéroport. J'ai contacté l'aéroport. Là, on me dit, ouais, mais là, il faudrait se référer à l'Agence canadienne du transport aérien.
Mais là, franchement, c'est arrivé à l'aéroport.
Ouais, mais les communications à l'aéroport ont quand même répondu à mes questions. On dit, oh, oui, effectivement, qu'on a déménagé hier, nouvelle section.
Ouais.
C'est un temps d'ajustement, un temps d'adaptation. Ouais. Sauf qu'il y avait l'équipement suffisant, tout était beau. Mais elle a dit non, il y avait un temps d'attente maximale de 30 minutes.
Ben là,
30 minutes. Sauf que l'auditrice a noté les temps. Là. Je l'ai ici, elle est arrivée à 9h05 et elle a franchi la sécurité à 10h pile.
Bon, mais ça fait 55 minutes.
Oui.
Fait qu'on fait 10h moins 9h05, là, c'est 55 minutes. Ouais. Ça fait
là,
peut-être à dire à l'aéroport.
Là, j'ai posé la question. Disons qu'on s'entend sur 30 minutes. Là. J'ai dit, c'est temporaire, ça? Ben, en théorie, c'est un temps d'attente. Là. Fait que ça devrait se replacer. Mais là, l'autre chose, c'est que vous parliez des employés tout à l'heure.
Ouais.
Les employés étaient effectivement présents. Il y avait le même nombre d'employés, 5-6 employés par ligne.
C'est ça habituellement qu'on a aussi quand ça prend moins de temps. Là. Okay.
Mais je vais vous lire le message qu'elle m'avait envoyé. Elle dit, il devait y avoir à peu près 5-6 employés par ligne et autant d'employés qui se tournaient les pouces.
Ben, écoutez, il y a beaucoup d'employés. On voit qu'il y a beaucoup d'agents là, qui sont là. Je veux dire, il y en a un qui vérifie nos cartes d'embarquement, l'autre qui les scanne, l'autre qui regarde ce qu'on met dans le bac, qui nous pose des questions. Ensuite, il y a les gens qui sont là pour scanner. Là, je veux dire qu'ils sont trois. Souvent, ben, ils attendent que les passagers puissent passer à travers le scanner. Puis, entre-temps, il ne se passe rien là, pour eux. Là. Je veux dire, il y a un paquet d'employés, mais on dirait que l'efficacité, en tout cas, à mon avis, est pas très, très, pas très grande.
Mais ça, c'est l'affaire. C'est quand tu es sur une chaîne de... Ça ressemble un peu à une chaîne de montage.
Oui,
moi, je scanne
oui.
ça. Après ça, moi, je fais ça. Là, quand tu arrives, tu fais deux, trois pas plus loin, puis tu as un autre employé qui fait ça. Mais quand tu es à chacune des étapes, tu as toujours des employés qui font rien, là, qui attendent que tu sois rendu à leur étape pour finalement travailler. C'est ça qui fonctionne pas. Mm. Puis je l'ai entendu dire tantôt qu'il y avait une cinquantaine de personnes dans la file d'attente avant elle.
Tout au plus.
50 personnes en passant, là, quand tu
c'est
vas fréquent. À l'aéroport à Montréal, c'est tout le temps ça qu'il y a, la sécurité. Mais ça prend quoi? 7, 8 minutes?
Ça roule à Montréal.
Ça roule, là. C'est pas long.
Pas juste à Montréal, n'importe quel aéroport.
Ben, oui, c'est ça,
sauf l'aéroport international Jean Lesage.
Non, mais c'est ça. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'aéroport international Jean Lesage est unique.
Je veux dire, il y a une façon de rendre peut-être les opérations un peu plus efficaces, là, ouvrir d'autres lignes ou augmenter la vitesse d'exécution ou je sais pas. Mais ce que je verrais finalement, c'est peut-être qu'ils ouvrent des lignes additionnelles ou qu'ils se rendent compte au niveau de l'efficacité du temps d'attente. Qu'il y ait certaines normes là qui soient respectées. Je sais pas, je voyage dans le monde entier aussi, puis dans le Canada, aux États-Unis, je ne vois que très rarement des choses comme ça, puis c'est souvent à Québec.
Bon, ben, c'est un nouveau prix pour nous.
Ben oui.
Il y a des gens qui nous écrivent. Il y a quelqu'un qui écrit 25226. Le temps d'attente est plus élevé à Montréal et à Toronto parfois. Je suis un voyageur fréquent aussi. Honnêtement, je prends pas l'avion 15 fois par année non plus. Mais quand je la prends, c'est souvent à Montréal. Moi, j'ai jamais attendu plus de 10 minutes à la sécurité. Je vous rappelle, c'est pas aux douanes. Des fois, il va arriver aux douanes où t'as 10 avions qui arrivent en même temps. Tous les voyageurs se rendent aux douanes. Ça peut arriver. Mais à la sécurité, moi, j'ai jamais vu ça ailleurs.
J'ai déjà attendu mon dernier voyage à Montréal quand j'ai pris l'avion. J'ai déjà attendu peut-être une quarantaine de minutes, mais on parle d'une file de 200 personnes.
Ben c'est ça. Là. Puis, c'est des situations exceptionnelles où tu vas attendre plus longtemps, ça peut arriver. Moi, mon problème, c'est le fait qu'on justifie le temps d'attente par le fait qu'on a déménagé la zone de fouille.
Oui, mais c'est ce qu'on expliquait aux gens et c'est ce que l'aéroport explique. Je pourrais mettre la photo. Là,
la photo est belle, on va la mettre sur la page Facebook.
Les gens qui attendent.
Ça fait aéroport de brousse un petit peu.
Ouais, c'est un peu bizarre. Ouais, ouais. Alors, écrivez-nous 25226 si vous avez déjà vécu des situations comme ça. Est-ce que pour vous, une heure à la sécurité, c'est normal? Là, évidemment, je suis pas celle qui voyage le plus, fait que je suis peut-être pas la meilleure juge pour ça. J'ai jamais vu ça dans les fois où j'ai voyagé dans ma vie, mais c'est pas arrivé 100 fois non plus.
Il y a des gens qui ont raté leur vol. Une dame qui a raté son vol.
Ah oui, c'est vrai?
Ben, t'en retends.
Ça, c'est plate, par exemple. Alors, écrivez-nous 25226. Est-ce qu'une heure d'attente à la sécurité, à la zone de fouille, c'est normal pour vous? Il est 6h59.
Le retour d'Éric Duhaime avec Éric Duhaime et Marc Boilard. Lundi au vendredi, 14h, au FM 93.
La cuisine de vos rêves pourrait vous faire gagner le voyage de vos rêves.
Grâce à Orléans Cuisine Design.
Allez visiter la salle de montre d'Orléans Cuisine Design. Faites-le plein d'idées et créez avec l'aide de leurs designers la cuisine de vos rêves.
Pour un temps limité, écoutez bien ça, Orléans Cuisine Design paie les taxes pour vous. Et j'ai pas fini. Vous devenez finaliste pour remporter un crédit voyage de 3 000 $.
Pour la cuisine et la salle de bain de vos rêves, Orléans Cuisine Design.
Visitez armoireorléans.com.
Dès juin, on se donne le goût au Grand Marché de Québec. Plus d'une centaine de marchands permanents et de maraîchers saisonniers d'ici donneront vie à cette nouvelle destination gourmande, et ce, toute l'année. Situé au cœur d'Exposité, le marché vous offrira 2 heures de stationnement gratuit. Pratique quand on fait un peu plus d'emplettes que prévu. Découvrez-en davantage en consultant legrandmarchédequébec.com. Le Grand Marché de Québec, là où notre saveur prend place.
Tous embellis avec Floralie.
Ce week-end, c'est la grande fête familiale chez Floralie Jouvence. Cabane à sucre, food truck, jeux gonflables, Éduquezou et ses animaux, la mini-ferme et tours de poney. Venez fêter ce week-end dès 9h chez Floralie Jouvence de Québec.
Solaris Québec, portes et fenêtres. Sylvain, le printemps est à nos portes et nos fenêtres chez Solaris.
Oh, Joanne, beau jeu de mots. Puis t'as tellement raison, avec le temps qui se réchauffe, on a le goût de changer d'air.
Exactement. Et pour les portes et fenêtres, on consulte les experts de chez Solaris.
Joanne, tu savais que Solaris compte plus de 45 ans d'expérience?
Ben oui. En plus, chez Solaris, on achète du manufacturier. Il y a donc un meilleur contrôle de la qualité et c'est moins cher.
Solaris Québec, portes et fenêtres.
Au 710 rue Bouvier.
3 au 5 mai, dans le cadre du Salon Autosport Miller Lite de Québec au Centre de Foire d'Exposité, venez voir les Fifth Wheel, Roulotte et VR de Motorisés de la Capitale. L'équipe de Motorisés de la Capitale sera sur place pour vous conseiller dans votre achat. Venez nous voir du 3 au 5 mai au Salon Autosport de Québec.
Joanne, dernièrement, j'ai visité Humanité.
Humanité, ça c'est le milieu de vie spécialement conçu pour les aînés atteints du trouble de la mémoire. Hein?
Exactement, Joanne, c'est très impressionnant. Ils ont créé de toutes pièces un milieu dans lequel les résidents se sentent vraiment à la maison.
Au lieu de se sentir comme à l'hôpital.
C'est ça. Il n'y a même pas de numéro aux portes. Par exemple, les résidents mettent la table eux-mêmes. Ils choisissent les condiments dans l'armoire.
Et qu'est-ce qu'ils font de leur temps libre?
Il y a des bénévoles qui sont spécialement choisis pour les accompagner dans des activités. Ils peuvent jardiner pour de vrai, faire de la couture. Il y a même un garage avec une voiture et tout ce qu'il faut pour la monter et la démonter.
Wow!
Humanité. Un milieu de vie unique pour aînés atteints de troubles de la mémoire. Visitez humanité.ca.
Vous voulez vendre votre maison?
SimonLaberge.com. Les courtiers immobiliers numéro 1 au Québec du palmarès Via Capital 2018. Ils ont les connaissances, l'expérience et le réseau de contacts. Vous voulez vraiment vendre votre maison? SimonLaberge.com. Courtier immobilier Via Capital. SimonLaberge.com.
Fixe Auto. Les premiers mots auxquels on devrait penser après un accident. Et votre premier choix en matière de réparation de carrosserie. Visitez fixauto.com pour une estimation sans obligation.
Salut, c'est Elisabeth, fière participante du demi-marathon de Lévis. Quelques collègues et moi, on participe aux 10 km. Vous voulez courir avec nous? Il reste encore quelques places disponibles. Si mes collègues et moi, on est capables, vous êtes capables aussi. Venez courir dans une ambiance rassembleuse et motivante sur le bord du fleuve avec vue sur Québec. Faites comme nous et inscrivez-vous en famille ou en groupe aux 10 km du demi-marathon de Lévis. Inscrivez-vous et consultez tous les événements sur jecoursquebec.com. Une invitation du FM 93.
On va vous apprendre des choses, vous en faire comprendre. On va vous divertir, vous accompagner. On va vous faire rire, vous faire fâcher. Le FM 93, c'est de l'audace, c'est du mordant, c'est du professionnalisme. Le FM 93, c'est tout ça et plus encore. FM 93, ça me parle. Sylvain Bouchard.
FM 93.
93, jusqu'à 9h30, vous écoutez
Bouchard en parle.
Bouchard en parle.
7h03, je vous rappelle que Sylvain est en vacances aujourd'hui et lundi, alors il sera de retour avec nous mardi. D'ici là, c'est moi qui serai avec vous à l'animation, toujours avec Belge, Jean-Simon et moi. Alexis, bien sûr. Moi, c'est, si les gens ne me connaissent pas encore à l'heure où on se parle, écoutez, je me présente, Elisabeth Crête.
La duchesse de Châteauguay.
Bonjour, Elisabeth.
Bienvenue sous le nom de... Alors, on va commencer, Belge, avec la circulation. Comment ça se passe sur les routes de Québec?
Ça se passe bien, c'est vendredi. Dans l'entonnoir qui mène au pont La Porte, on parle d'achalandage seulement. Ça roule à vitesse normale. Par contre, sur Henri IV, direction sud, un peu après Sainte-Geneviève, ça devient au ralenti jusqu'à la fin du chantier, pratiquement à Charest. Et sur Capitale, direction ouest, il y a déjà une petite attente là, dans l'accès qui mène à Robert Bourassa.
La circulation, présentée par Paquette Nissan à Lévis. Se faire servir avec le sourire, amicalement, sans pression, autant avant qu'après l'achat. Chez Paquette Nissan, on est de service.
Une enquête publique du coroner se tiendra à la suite de la mort tragique de l'enfant, la jeune fillette de 7 ans qui a été victime de sévices du côté de Grimbé. D'ailleurs, lors du retour en cours hier du père et de la belle-mère, soupçonnés d'avoir causé la mort de l'enfant, aucune nouvelle accusation a été déposée contre eux. Le directeur des poursuites criminelles et pénales attend les conclusions de l'enquête policière. Ils font présentement face à des accusations de séquestration. D'ailleurs, le rapport de la Commission des droits de la personne sur la mort de la petite Rosalie Gagnon, 2 ans, pourrait ne pas être rendu public. Le tout, nous dit-on, pour protéger l'identité de l'enfant. La Commission a indiqué au FM 93 que les recommandations seront dévoilées, je cite, « si c'est dans l'intérêt de l'enfant ». La petite Rosalie est morte dans d'atroces circonstances en avril 2018, alors que son corps avait été retrouvé dans un bac à ordures. Sa mère, Audrey Gagnon, est actuellement en procès pour meurtre au second degré. Et dénoncé par Google, un homme de 80 ans plaidé coupable de possession de pornographie juvénile hier au Palais de justice de Québec. Jean-Marc Rioux a reconnu être le seul à avoir eu en sa possession les 250 fichiers saisis par les policiers. Comme son fils demeurait à la même adresse, il a lui aussi été arrêté. Il a plaidé non coupable selon le Journal de Québec. C'est Google qui a dénoncé Rioux après qu'il ait téléchargé à 3 reprises les fichiers de pornographie juvénile.
Hockey, Ligue nationale, 2 matchs hier, victoire de Boston, 4-1 sur Columbus. C'est donc 2-2 dans cette série. Et Colorado a blanchi San Jose 3-0. Là aussi, c'est 2-2 dans la série. Il y a 2 autres matchs ce soir. Et l'ailier défensif du Rouge et Or, Mathieu Betts, a été élu meilleur athlète universitaire masculin au Canada, tout sport confondu, hier. Et c'était également hier soir le repêchage de la Ligue canadienne. Betts a été sélectionné au 3e rang au total par Edmonton. Ses coéquipiers du Rouge et Or, Vincent Desjardins et Samuel Thomassin, ont été choisis en fin de 2e ronde, respectivement par Calgary et Montréal.
50 nuances de gris dans le ciel de Québec aujourd'hui, max de 7, donc c'est aussi frisquet, plus intermittente. C'est en fin de semaine que c'est pas mal plus beau, maximum de 13 demain. On dit généralement nuageux, mais on devrait voir le soleil poindre ses rayons pendant la journée. Dimanche, maximum de 15, alternance de soleil et nuages. Et à Québec, c'est 3.
La météo présentée par Volvo de Québec. Découvrez les systèmes de sécurité novateurs du Volvo XC60, désigné véhicule le plus sécuritaire jamais testé en Europe. Détails chez Volvo de Québec, volvodequebec.com.
FM 93, ça me parle.
7h06. Hier, c'était pas facile du côté de Lionel Carman, du ministre à la Santé. Du ministre délégué, en fait, à la Santé. C'était vraiment pas facile. On va vous présenter un extrait en premier du point de presse qu'il a donné. C'était un point de presse, en fait, qui tenait à aviser la population que le directeur de la DPJ du côté de l'Estrie avait été suspendu.
Essayez d'expliquer ce qui arrivait.
C'est ça. Parce lui-même était pas certain.
Il comprenait pas.
Es-tu suspendu? Es-tu renvoyé avec solde, pas de solde? Il a démissionné lui-même, il est-tu en vacances? On était mêlés du côté des journalistes aussi. On a posé des questions. Monsieur Carman n'avait pas nécessairement la réponse. À un moment donné, son attaché de presse ou quelqu'un de son équipe a même dû dire on va vous revenir pour la situation exacte. On va écouter en premier ce qui s'est dit en point de presse. Alors, bien sûr, on revient sur cette histoire de la fillette de 7 ans qui est décédée à Granby. On a pointé du doigt beaucoup la DPJ depuis le début de ce dossier-là. Et je pense que c'était la bonne chose à faire de le retirer de ses fonctions. Mais là, il est retiré dans quel contexte? Démission? Salaire, pas de salaire, suspendu, on ne le sait pas. Et donc, on commence avec un extrait du point de presse de M. Carman.
Donc, nous avons décidé ce matin de le suspendre et par la suite, on l'a retiré de ses fonctions, tout simplement.
Comment qualifiez-vous sa gestion de ce dossier?
Je crois qu'elle a été insatisfaisante, c'est ce que je dirais.
Exactement, à cet homme.
Écoutez, pour le moment, il faut vraiment attendre les résultats pour savoir tout ce qui s'est passé avant de mettre un point précis.
Vous portez à démissionner, mais vous n'êtes pas capable de nous dire qu'est-ce qui a fait de d'incorrect?
Ben, ce qui s'est passé, c'est quand même il y a un enfant qui est décédé sous sa responsabilité. Il est imputable et c'est un signe de son imputabilité, ce que je vous apprends ce matin.
Avec salaire, M. Carman, est-ce qu'il s'en va à la maison avec son salaire? Est-ce qu'il a été forcé de démissionner? Pouvez-vous nous dire oui, il s'en va sur un autre poste ailleurs dans la fonction publique? Que va-t-il arriver à cet homme?
Il a démissionné.
Il a démissionné.
Donc il s'est retiré lui-même. Il s'est retiré lui-même ou vous lui avez demandé de se retirer?
Nous avons demandé de se retirer et puis il a acquiescé ce matin.
Mais est-ce qu'il va être payé à la maison? C'est ça la question de François. Est-ce qu'il va, est-ce qu'il est, par exemple, suspendu avec solde, avec salaire? Est-ce qu'il va être affecté à d'autres fonctions dans la haute fonction publique? Qu'est-ce qui arrive avec ce monsieur-là?
Nous avons demandé qu'il soit suspendu avec salaire et ce qui est arrivé, c'est qu'il a démissionné.
Donc, il n'y aura pas de salaire.
On va vous revenir avec les détails. Là. Je suis vraiment désolée, mais on va vous revenir avec les détails.
Donc, vous ne savez pas, c'est ça?
Il est démissionné ou il est suspendu? Je veux juste clarifier.
Il est suspendu.
Il est suspendu. Il est suspendu. Il est suspendu. Il est suspendu. Il est suspendu.
Ouf, là, j'ai mal à la tête.
C'est
là.
Confus.
C'est
confusant.
Ils ont voulu le suspendre, mais au même moment, il a démissionné. Il a démissionné avec salaire. Ça se peut, ça, de démissionner avec salaire?
C'est parce qu'après, il a dit, puis quand on a parlé à un journaliste, quand Myriam a parlé avec un journaliste hier midi du côté de Sherbrooke, il disait, non, il s'est retiré le temps de l'enquête.
C'est ça.
Mais là, au début, il avait juste été suspendu avec salaire et s'est retiré le temps de l'enquête. Mais là, après, on a dit, non, il a démissionné. Vous lui avez demandé de démissionner, il a démissionné. Il s'est passé quoi?
Mais là, ce que j'ai lu ce matin dans les journaux, c'est qu'il est retiré de ses fonctions le temps de l'enquête, mais avec salaire. Finalement, il est en vacances à la maison. C'est ça, c'est ça qu'on comprend.
Et c'est ce que le premier ministre a dit hier. Mais c'est aussi, ça. C'est suspendu avec salaire.
Mais c'est ça. Tu peux pas dire démissionner. Démissionner, ça veut dire je me retire de mes fonctions de façon permanente, puis je suis plus payé. Là. Fait que c'est pas une démission. Alors, tout ça, alors une minute et demie de confusion pour.
Ils sont-tu parlés entre eux autres avant de faire la conférence de presse? Parce que ça sonne un peu comme.
T'es clairement pas au courant.
Genre, tu sais, un band qui arrive sur scène, puis le chanteur, il pense qu'il chante une toune, le guitariste pense qu'il en chante une autre, puis le drummer en commence une autre, ça sonnait comme
ça. Non, ça marchait pas. Mais et le pire là-dedans, c'est que Lionel Carman racontait qu'il a essayé d'avoir une rencontre avec ce monsieur-là qui s'appelle M. Trudel, Alain Trudel. Ouais. Il a essayé d'avoir une rencontre avec lui, mais ça semblait compliqué.
C'est ça.
Alors finalement, on a pris la décision de le retirer.
Là, j'ai pas parlé.
Là. Non, mais t'as peu. Le directeur de la DPJ Estrie, M. Trudel, n'a pas le temps de rencontrer le ministre Lionel Carman au moment où il demande à le rencontrer. Qu'est-ce que tu as de mieux à faire? Ton boss te demande de le rencontrer. Vez, si le boss ici dit tu viens dans mon bureau après le travail, d'après moi, tu y vas.
Qu'attends de son tour.
Non, ça fonctionne pas.
Non, c'est sûr
pas.
Que je suis là.
Ça ne marche pas. Il y avait plein d'affaires qui ne fonctionnaient pas. Alors, finalement, tout ça pour dire qu'il est retiré de ses fonctions le temps de l'enquête avec salaire. Ça, c'est la conclusion. Alors, M. Carman est venu s'expliquer sur les ondes du FM 93 hier midi avec Jeff Blanchette et Myriam Segal. Alors, il a accepté de venir parce qu'on y avait fait une demande, nous, hier matin. Ça n'avait pas été possible. Hein? Je comprends que c'est parce qu'il y avait une conférence de presse après qui avait été organisée. Mais donc, il s'est présenté au micro de Myriam Segal pour expliquer un peu cette décision-là. Alors là, il précise avec Myriam pourquoi on le paye exactement, pourquoi il n'est pas congédié, comment ça se fait qu'il est à la maison avec salaire.
Écoutez, ça, je vais prendre le blâme là-dessus. J'ai demandé ce matin que M. Trudel soit retiré de ses fonctions pour que l'enquête soit transparente et qu'il n'y ait pas d'impression de conflit d'intérêts. Entre-temps, j'ai appris qu'il s'était lui-même retiré de ses fonctions. Et moi, j'ai dans le malentendu, là, on est quand même dans un moment chargé d'émotions là, cette semaine. Là. J'ai cru comprendre que ça voulait dire, c'est qu'il avait démissionné.
Ouais, vous vouliez le rencontrer hier. De quelle façon il a justifié le fait de ne pas rencontrer le ministre?
Ben, je pensais un peu pour ça qu'il s'est retiré de ses fonctions. Je pense que lui-même aussi, il vit un moment quand même très difficile. Et on va essayer de reporter cette rencontre le plus rapidement possible.
OK, c'est lui que vous allez rencontrer avec le CIUSSS si tout va bien.
Oui.
OK. Mais si lui ne veut pas vous rencontrer... Il est retiré chez eux, il encaisse son salaire. Allez-vous vous choquer puis le congédier?
Écoutez, il faut vraiment savoir tout ce qui s'est passé dans ce dossier-là. Puis j'espère qu'il va venir nous expliquer sa version des faits.
J'espère moi aussi. Seigneur, il me semble que c'est
mais pas très convaincant. Mais il nous a pas expliqué pourquoi il est pas venu. Hein?
Non.
C'était-tu parce qu'il y avait un lunch d'affaires? Est-ce qu'il y avait une pièce de théâtre? Est-ce qu'il y avait quelque chose?
Je trouve ça un peu arrogant. Je trouve ça un peu arrogant de la part de quelqu'un qui est sous l'autorité du ministre de refuser une rencontre. Oui, de la part de Trudel. Je trouve ça un petit peu arrogant. Ton patron, c'est le ministre, il demande à te rencontrer.
Ça fait pas t'annules un petit peu...
tout ce que tu as dans ta journée, tu y vas. Là.
Mais surtout dans ces circonstances-là. Là.
Ben,
je veux dire, c'est pas une journée comme une autre. Là.
Ben non, effectivement.
Ça fait un petit peu mou du ministre aussi. Martin fait remarquer via 25226 que non seulement il n'y a pas beaucoup d'aplomb, mais pas beaucoup de vigueur. Il dit que son nom de scout devait être Escargot.
C'est vrai
qu'il n'est pas très vigoureux, M. Carman. Là. On s'attendrait un petit peu plus de véhémence de la part d'un ministre qui. Dans une situation qui est en train de shaker le Québec en entier.
Ben c'est ça. Là. Je pense qu'il est aussi. Je pense que M. Carman a le cœur à la bonne place, puis il est aussi pris émotivement que nous autres dans cette situation-là. Par contre, sa job, c'est d'être solide dans ses propos et de rassurer les Québécois. Là. Ensuite, on a posé la question à M. Carman, est-ce que ce ne serait pas le temps d'une réforme complète de la DPJ?
Est-ce qu'il ne serait pas temps de donner un coup de barre? Quand des parents sont incompétents, est-ce qu'on ne serait pas bien mieux de donner ces enfants-là en adoption bien plus de bonheur?
Ben, c'est un petit peu ce qu'a annoncé, ce que veut faire monsieur le premier ministre, c'est de revoir tout le processus. D'ailleurs, nous, on avait déjà parlé de modifier, de réviser les processus d'intervention et de suivi des mesures. Et je pense que ce qu'il faut se dire, c'est que les choses ont changé, la vie a changé et les processus n'ont pas changé. Il faut les systématiser aussi. Parce que, comme vous dites, ce sont des jeunes professionnels qui prennent des décisions difficiles dans un contexte difficile. Là, les parents, ils collaborent très peu là quand ça arrive. C'est pas eux qui ont demandé ça. Donc, c'est important qu'ils soient bien encadrés. Puis nous, on pensait que c'était la mesure initiale qu'il fallait faire tout de suite. C'est ce qu'on a annoncé. Mais là, vraiment, ça vient de prendre une autre ampleur, les interventions.
Les encadrer comment? Qu'est-ce que vous proposiez?
Alors, ce qui s'est produit avec la réorganisation du réseau, là, c'est qu'il y a beaucoup d'expertise qui a quitté la DPJ. Des gens sont allés à la retraite, des gens qui ont changé de poste parce qu'ils avaient de la mobilité dans les CIUSSS. Donc, il faut ramener cette expertise-là et fabriquer des équipes qui pourront bien prendre en charge ces enfants, ces enfants de la DPJ, et s'assurer que la décision ne repose pas sur une seule personne.
Alors, à la question, est-ce que c'est le temps d'une réforme de la DPJ? Je comprends que la réponse, c'est non.
Il n'y aura pas de réforme. Bien au contraire, peut-être.
Ouais, il n'y aura pas de réforme, à proprement dit, comme on souhaite en avoir. Par contre, on va se pencher sur la question. Ensuite, la question a été posée, puis je trouve ça très bon, parce que là, ce qui est question là-dedans, c'est la gestion de la DPJ pour sauver et pour protéger les enfants du Québec. On a eu l'histoire de Rosalie Gagnon, cette jeune fille de 3 ans qui est morte il y a plus d'un an maintenant. C'est sa mère, Audrey Gagnon, qui est accusée de meurtre dans cette affaire-là. Alors là, ça fait 2 enfants morts en un an, qui était supposé être sous la protection de la DPJ, qui était supposé qu'on devait protéger finalement. Ça fait 2 enfants qu'on a échappé. On a posé la question, M. Carman, est-ce qu'on pourrait pas jumeler ces enquêtes-là pour se pencher sur la gestion de la DPJ sur des cas de protection d'enfants?
On a l'air de traiter le cas de cette petite fille-là comme un cas unique, isolé, qui arrive comme ça. C'est vrai que dans ce cas-là, ça a l'air d'être la tempête parfaite. Mais on a eu l'histoire de Rosalie Gagnon aussi à Québec. Ça fait 2 fois que des enfants signalés à la DPJ meurent aux mains des gens à qui on les a confiés. 2 fois en un an. Je trouve ça beaucoup, M. Carman. Est-ce que vous n'avez pas envie de jumeler l'enquête avec celle de Rosalie Gagnon?
Écoutez, pour le moment, moi, je m'occupe de... Il faudrait que j'y réfléchisse, mais je veux vraiment rassurer tout le monde, là. On va prendre soin de tous les enfants du Québec. C'est le but. Moi, je me suis lancé en politique pour ça. La procédure à suivre là, pour la question que vous me posez, j'en suis pas sûr. Là. Mais l'important, c'est vraiment que ceci ne se reproduise plus.
Bon, alors on va y penser, on va voir. Parce qu'à chaque fois qu'on pose des questions comme ça à un ministre, on a l'impression que j'ai l'impression que Mme Segal, c'est la première personne qui a dit « Hey, ce serait peut-être une bonne idée de jumeler 2 enquêtes. Écoutez, je vais me pencher là-dessus. » Vous n'avez pas pensé à ça dans votre entourage? C'est pas une option.
Décisif,
vous avez...
Ferme, décisif,
ouais, ça
non.
Mais tu sais, quand on parlait cette semaine d'Éric Kerr, quand il s'est exprimé à l'Assemblée nationale sur la cyberdépendance, parce que son fils lui-même souffre de cyberdépendance, on avait dit « C'est le fun, il montre de l'émotion. » J'avais souligné qu'on aimerait ça que plus souvent, lorsque ça ne concerne pas directement un député ou un ministre, on a la même émotion. Puis là, ici, M. Carman semble pas très émotif. Beaucoup, plusieurs réactions, Elisabeth, au 25226. D'abord, concernant le fait que le directeur de la DPJ n'ait pas voulu rencontrer le ministre, quelqu'un nous écrit dans la fonction publique, c'est la première chose que tu apprends. Quand tu as une demande du ministre, tu arrêtes tout et tu lui réponds.
Ah non, c'est sûr. Écoute, c'est le patron qui décide, là. On va juste faire entendre un dernier extrait maintenant. On a posé la question à M. Carman, comment les personnes qui ont échappé le ballon vont être imputables là-dedans? Il y a des gens qui sont responsables dans cette affaire-là, en fait, qui ont clairement pas agi de la meilleure façon possible pour protéger l'intérêt de l'enfant, parce que malheureusement, elle est décédée. Il y a des gens qui ont pas fait ce qu'il fallait faire dans ce dossier-là pour s'assurer que la jeune fille était protégée. Est-ce que ces gens-là sont imputables? Autrement dit, est-ce qu'il va y avoir des congédiements à la suite de cette enquête-là? On écoute M. Carman.
Les nombreuses personnes qui ont échappé le ballon, comment ces personnes-là vont être imputables?
Mais écoutez, je pense que la DPJ est imputable. D'ailleurs, c'est le geste qu'on a voulu marquer ce matin. Et une fois qu'on saura quelles sont les erreurs qui ont été commises, les fautifs, on s'en occupera une personne à la fois.
C'est-à-dire?
On verra quand une fois qu'on aura les conclusions des enquêtes.
Parce qu'on connaît pas le nom des coupables, on connaît pas leur destin, on connaît pas les conséquences sur leur vie professionnelle. Quand t'as pas de conséquences à tes actes, tu peux être un peu plus négligent, ça te stresse moins. Mais quand les gens demandent de l'imputabilité à ces gens-là, il faut qu'il y ait des conséquences. Là, vous dites que vous allez traiter au cas par cas. Est-ce qu'on pourrait nommer ces personnes-là? Est-ce qu'on pourrait les congédier? Est-ce qu'on pourrait faire un suivi avec le grand public pour dire « Voici ce qui arrive quand vous échappez le ballon dans vos fonctions professionnelles? »
Mais écoutez, ça va être à discuter avec la sécurité publique, la justice. Là. C'est un petit peu hors de mon mandat. Là.
Oui, fait que ça va être à suivre finalement.
Ben, j'espère. Je peux le comprendre qu'il ne peut pas se prononcer avant ça, les conclusions de l'enquête. Là.
Mais j'aurais aimé qu'ils disent si des gens ont échappé le ballon pour qu'on est capable de le démontrer, il faut être certain que des têtes vont. Ah, il va y avoir des congédiements, ça c'est certain, puis on ne sera pas gêné de le faire. On demande juste une certaine fermeté de la part de M. Carman. Puis Michel nous écrit on s'ennuie de la fermeté de Gaétan Barrette.
Ouais, il y en a plusieurs qui nous écrivent.
Ouais. M. Barrette avait bien des défauts, mais sincèrement, quand il y avait un message à passer, il passait, puis il ne passait pas par quatre chemins. Est-ce que c'était tout le temps dans le meilleur intérêt de tout le monde. Peut-être pas, là. Je pense qu'il a ouvert la bouche un petit peu trop vite à certaines reprises. Mais dans un cas comme celui-là, je pense que c'est important que M. Carman ait une fermeté. Oui, on va congédier du monde. S'il faut qu'on en congédie, soyez assurés de ça. On ne sera pas gêné de le faire.
Mais que d'autres nous écrivent également. M. Carman était beaucoup plus vigoureux avec la légalisation du cannabis à 21 ans. Et Martin, un bon flash, il dit bon, M. Carman, c'est pas de sa faute. Sa meilleure conseillère était au Mexique, les deux pieds dans l'eau.
Oui, mais il y a d'autres mondes autour de lui, là. Sincèrement, c'est pas tous des newbies qui sont au gouvernement présentement.
Ben,
là. C'est pas,
des fois, ça a l'air de ça. On va dire que le gouvernement péquiste, qui a de la misère à accepter une entrevue. On s'entend qu'ici, on a de la misère à les avoir. De deux choses l'une, soit ils sont tous des novices qui ont, ils ont peur de se faire poser des bonnes questions, ou soit ils ont quelque chose à cacher. Vous voyez que la première option.
Alors, c'est à suivre, c'est sûr, mais je pense que M. Carman devrait apprendre de cette expérience-là, puis il faut vraiment qu'il commence à être un petit peu plus rassurant. Là. Ça a pas de sens. Il est en train de se caler à chaque fois qu'il ouvre la bouche. Le point de presse était complètement décousu. Cette entrevue-là, on n'a à peu près pas de réponse. Puis je comprends, on demande pas qu'il y ait des réponses à toutes les questions parce que tu as plusieurs questions qui vont demeurer sans réponse pendant longtemps. Tout ce qu'on veut, c'est un ton rassurant, ton un peu plus ferme.
Les gens sont tannés du laxisme. Et ce qu'ils veulent, puis j'ai l'impression dans ce contexte-là, et les messages qu'on reçoit par texto démontrent ça, c'est que les gens, à tout le moins, ils veulent une intention qui va se passer quelque chose. De dire, c'est pas parce que ça s'est arrivé que ça va continuer comme si de rien n'était. Et peut-il y avoir du changement? Est-ce qu'on peut, à tout le moins, assurer que quand on va trouver les gens, s'il y a des gens qui ont mal agi, s'il y a des gens qui ont erré, à ce moment-là, oui, il y aura des conséquences. Si l'enquête ne démontre rien, puis si on relève rien, c'est correct.
On va voir. Si... On ne peut pas se prononcer avant. Là,
c'est ça.
Alors, c'est à suivre, c'est sûr. De toute façon, cette enquête-là, attendez-vous pas à avoir des résultats dans les prochains mois. Ça va être très, très long. Ça va prendre des mois, voire des années. Il ne faut pas non plus que l'enquête interfère avec l'enquête criminelle qui va y avoir lieu à ce sujet-là non plus. Alors, l'important, et c'est la juge André Ruffo qui l'a dit hier, l'important, c'est que le public ne cesse pas d'en parler. Il ne faut pas cesser la mobilisation publique. Elle dit c'est quelque chose d'incroyable ce qui se passe présentement parce que tout le Québec en parle au complet. Tout le Québec est indigné et c'est ça au bout de la ligne qui va peut-être faire bouger les choses. Elle dit l'erreur qu'on ferait par contre, c'est d'arrêter d'en parler dans une semaine parce que là l'attention a un petit peu baissé puis les médias en parlent un petit peu moins.
En 2007,
c'est pas la mobilisation.
En 2007, au moment de la disparition de Cédrica Provencher, et là, il peut être tout un peu pour faire des parallèles dans la mobilisation, mais c'est sûr qu'en 2007, les réseaux sociaux étaient encore à leur balbutiement, donc on voyait pas ça, mais je sens dans l'espèce d'émotion ressentie collectivement par les Québécois, par les gens de partout au Québec, qu'on assiste à un genre de Cédrica Provencher de la DPJ.
En termes de mobilisation?
En termes de mobilisation.
Ça fait juste 48 heures, mais c'est sûr que j'ai rarement vu
Autant d'émotions.
Autant d'émotions et autant de gens parler du même sujet en même temps au Québec. Là, c'est vraiment incroyable ce qui se passe présentement. Et ça va être notre job à nous comme médias de ne pas cesser d'en parler non plus, de ne pas cesser de courir après les élus pour ça. C'est vraiment important. Si on veut que les choses bougent, il faut vraiment qu'on soit impliqué là-dedans. Il est 7h22.
Doc Mayou et José.
Lundi au vendredi, dès 9h30.
OFM 93.
En 1970, Matelas Dauphin fabriquait, vendait et garantissait ses tout premiers matelas. 49 ans plus tard, Matelas Dauphin est devenu l'un des plus grands fabricants de matelas au Québec. Pour souligner son 49e anniversaire, Matelas Dauphin vous offre des économies majeures sur tous ses matelas, plus payés en 36 versements ou taxes payées. Exemple, économisez 423 $ sur le matelas tendance, ultra confortable, grand 2 places, en spécial à 599 $, payable en 36 versements ou taxes payées. C'est la vente 49e anniversaire dans tous les matelas Dauphin. La force du fabricant.
Pourquoi autant de gens achètent un Arctic Spa? Constatez-le vous-même chez Club Spa. Ils sont les seuls à pouvoir être munis du système d'entretien de l'eau automatisé Spa Boy. Pour un temps limité, sur les Arctic Spa sélectionnés, c'est Club Spa qui paye les taxes. Club Spa à Beauport et l'ancienne Lorette.
Des plans pour ce week-end? Pourquoi pas une balade en voiture dans la belle région de Saint-Raymond?
C'est l'événement plus pour votre véhicule d'échange à Saint-Raymond, la ville de l'automobile.
Hyundai Saint-Raymond. Germain Chevrolet. Dalton Ford. Saint-Raymond Toyota.
Quatre concessionnaires ouverts ce samedi afin de vous en donner plus pour votre véhicule usagé. Votre destination d'achat, Saint-Raymond, la ville de l'automobile.
Côte-Joyeuse, Saint-Raymond.
Avec plus de 3000 luminaires et des rabais de 25 à 50%, créez l'ambiance de vos rêves maintenant chez Luminaire Napère. Suspendus, muraux, extérieurs, un lustre en cristal et chrome, normalement 400 $, réduit à 249 $. Un lustre en bois très tendance, normalement 300 $, réduit pour 149 $. Pour un seul luminaire ou pour toute la maison, profitez des rabais allant jusqu'à 50% sur tous les luminaires pour un temps limité chez Napère à Sainte-Marie, à seulement 20 minutes des ponts.
Vous devez passer une résonance magnétique? Choisissez IRM Québec, la force magnétique. Rendez-vous le jour même pour la plupart des examens. Résultats transmis rapidement. Environnement adapté, calme et sans stress. Envoyez votre prescription en ligne irmquebec.com.
L'hôtel Le Concorde présente du 3 au 5 mai le Salon Autosport Miller Lite de Québec à Exposité.
À voir la zone événementielle festidrive.tv avec des voitures de drag, de stock car, rallycross et de drift.
Du 3 au 5 mai, c'est le Salon Autosport Miller Lite de Québec à Exposité.
autosportquebec.com.
Pour communiquer avec notre studio, étoile 93.3.
La chronique de Pierre-Yves McSween, présentée par Ginsburg Gingras. Surmontez vos dettes. Contactez gratuitement un syndic autorisé en insolvabilité de Ginsburg Gingras. GinsburgGingras.com/dette.
Dans Bouchard en parle, voici Pierre-Yves McSween.
Monsieur McSween, bon matin.
Ah tiens, la fille qui me rend cool dans des entrevues où je me confie trop.
Ben oui, c'est ça. T'as pas parlé trop, finalement, ça a été correct.
Non, quand même, c'est pas ce pire.
Ben oui, ça s'est bien passé. Il va falloir faire une prise 2 de ça, à un moment donné, avec encore plus de confiance.
Après moi, il y a eu Jean Charest.
Oui, c'est vrai.
J'ai fait la première partie de Jean Charest.
Ouais, c'est ça. Faut que tu fasses meilleur après ça. Tu fais la conclusion de Jean Charest. Hey, on parle de Tesla ce matin, Pierre-Yves. Je suis contente que t'en parles parce que j'avais entendu parler dans les dernières semaines que ça faisait pas une scène.
Ça fait pas une scène, je peux te le dire. C'est normal. Ils sont en démarrage depuis 1000 ans. Mais
ouais, c'est ça, exactement.
Moi, je voudrais savoir, toi, Elisabeth,
oui.
Côté voiture,
oui.
Si je te disais que tu as une voiture électrique à acheter demain,
oui.
Est-ce que la Tesla va être un de tes choix?
Ben, à cause du prix, non.
Et voilà. Donc, tu amènes un bon point.
C'est quoi, c'est 100 000, cette auto-là, je pense?
Non, mais là, il y en a une moins chère. T'en as une à 44 000 999 avant subvention, mais elle a juste 150 km d'autonomie, donc là, finalement.
44 000 pour 150 km.
Non, oui, correct. Quand même, écoute. Mais là, je vais te parler du lien avec Tesla, de la rentabilité, de la solvabilité, de la viabilité. Quand j'ai été étudiant à HEC Montréal, il y a un prof qui m'a parlé de ça, puis quand j'ai enseigné par la suite, j'ai vraiment toujours abordé ce sujet-là. J'entre dans la classe, puis je dis, savez-vous la différence entre solvable, viable et rentable? Là, les gens, c'est-à-dire tout le temps dans leur cerveau, il y a beaucoup trop de mots en « able » là-dedans, ça fait comme un comptable agréable. Alors, je dis, OK, rentable, c'est quand tu fais de l'argent. Donc, oui. Tesla n'est pas rentable parce qu'on perd 668 millions au dernier trimestre. T'sais, on a fait plus de dépenses
combien?
Que de ventes.
Aïe, aïe.
Ah oui, 668 millions, mais il faut faire attention. Il y a quand même 3,7 milliards de ventes. C'est quand même beaucoup, mais...
Ouais, je veux bien.
Puis mais... on a d'autres ventes après. Fait qu'au total, on a 4,5 milliards de ventes. Mais le problème, c'est que les frais de vente et d'administration sont tellement élevés pour vendre des voitures.
Hey, moi, j'admire les gens d'affaires qui sont capables de faire des déficits de 660 millions puis de bien dormir la nuit.
Ouais, mais c'est incroyable quand même. Que c'est basé sur le futur et voilà.
Ouais, je sais bien.
On arrive l'autre bord. Est-ce que c'est solvable? Tesla dit, on a besoin de liquidité. Être solvable, c'est être capable de payer ses fournisseurs.
Ouais.
T'es toujours capable d'être solvable tant et aussi longtemps que t'as de l'argent qui vient de tes opérations, ce qui n'est pas le cas pour Tesla, parce que les opérations génèrent beaucoup de pertes. Là, on parle dans le dernier trimestre encore, sortie de liquidité liée aux opérations, 640 millions. Mais il y a des actionnaires qui sont prêts à embarquer, puis il y a des gens qui sont prêts à prêter. Pensez à votre père. T'sais, vous êtes capable de, ou votre mère, vous êtes capable de payer vos dépenses comme étudiant avec vos revenus, mais c'est pas assez. Vos parents compensent. Puis là, tu te dis, ah, je suis solvable, je suis capable de payer mes comptes parce que mon père me donne de l'argent, ma mère me donne de l'argent. Mais un jour, ton père, ta mère n'en donne plus.
C'est ça.
Tu sais, pourquoi tu souris, Elisabeth? Ça t'est arrivé?
Hey, non. J'ai été émancipée de mes parents très, très tôt, moi, tu sauras.
Donc, là, t'es encore solvable tant que quelqu'un veut te prêter. Mais à un moment donné, t'as tellement de dettes que ton intérêt devient tellement élevé, que tu deviens tellement risqué qu'il n'y a plus personne qui veut le prêter.
Ben c'est ça, ouais.
Puis les actionnaires veulent plus embarquer. Alors, pour l'instant, on veut encore embarquer, donc on est encore solvable, capable de payer nos obligations avec l'argent des autres. Et l'état des flux de trésorerie le montre.
C'est ça à qui ça me fait penser, ça? Ça me fait penser à Good Food, un peu. Tu sais, Good Food, ils font beaucoup de déficits présentement. Ils ont un plan sur l'avenir, puis à long terme, ils disent qu'ils vont finir par faire de l'argent. Mais ils sont entrés en bourse exactement pour pouvoir avoir de la liquidité un peu, là.
Bien, comme beaucoup de licornes. Et là, tu es viable si tu réussis un jour à être solvable et rentable. Et c'est ça le défi de Tesla. Mais le problème, tu l'as dit tantôt, toi, quand tu vas venir pour t'acheter une voiture électrique, peut-être dans 2 ans, il va y avoir des Volkswagen électriques pour moins cher. Il va y avoir des Hyundai électriques pour moins cher.
Ben, il y en a, ouais. Mais il y en a pas mal, là, ouais. Mais c'est parce que l'affaire, t'as 100 km d'autonomie, à peu près. Ça compte
pas. Non,
là,
ça va. Si tu vas vérifier les derniers modèles, là, on tombe dans du 300. T'as la Bolt. Bon, la Bolt, le seul problème, c'est que tu veux pas t'asseoir en arrière. T'as les... Tu sais, j'ai embarqué dans un taxi Bolt, moi, là.
T'as... Ah oui? Puis...
Le chauffeur m'a dit, je fais 6 pieds, embarque pas en arrière de moi, embarque en arrière du siège passager. Pour vrai.
Ah,
le gars
oui?
était à côté, j'avais les genoux à côté dans le front.
Ça a bien été, le confort allait bien.
Et là, tu parles, ça fait un beau lien avec le deuxième sujet, tu parles d'entreprises qui font pas d'argent, mais qui attirent les actionnaires.
Ben oui.
Non, mais il y en a plein, là, parce que c'est ça qu'on achète. On achète la croissance future, on achète la promesse. Et là, en bourse, t'as Beyond Meat qui est rentré hier.
Oui, on a fait un test. Ben oui, sais-tu quoi? On a fait un test cette semaine avec un hamburger de boulettes de viande hachée Mi-Meg et un hamburger de boulettes Beyond Meat.
Même Meg.
Meg, c'est vrai. Et c'est Vez qui a goûté les deux burgers. Puis le goût est à s'y méprendre, sauf que la texture est différente.
La texture est un petit peu différente et le goût un petit peu différent. Mais c'est bon.
Mais c'est bon quand même. Tu vas pogner la maladie du hamburger, tu vas pogner la maladie de l'algue.
Oui,
imagine, ça s'en vient, c'est ça.
Non, mais je blague, mais... Ce qui est drôle, un, c'est suremballé, on va se le dire. Deux, c'est basé sur le fait qu'on croit que les gens vont devenir végétariens en copiant la viande, alors que tu peux très bien te faire de la bouffe végé sans payer pour copier la viande. Alors, la promesse, même si l'entreprise fait 30 millions de déficit...
Mais c'est cher, par exemple.
C'est dominer le marché.
Ouais.
C'est cher?
C'est encore plus cher que la viande, pas mal. Ben, on parle de 2 fois le prix, je pense.
C'est vraiment emballé. C'est un peu lié avec David Stee, je vais te faire ce matin. Ce matin, si on regarde l'action de Beyond Meat, c'est un peu fou, là. Ils s'en vont en bourse avec des pertes de 30 millions pour une année. Et on met l'action à 25$, puis elle monte à 74. Tu sais, je veux bien croire qu'on est vraiment, comment je pourrais dire ça, vraiment positif ou très, très, très content de l'avenir, mais il y a toujours bien une limite, là. Est-ce qu'on va être capable d'être viable, solvable et rentable? Je te ramène à David Stee.
Mais t'as combien de temps pour ça? Mettons, en tant qu'entreprise, tu te donnes combien de temps pour
répondre?
Tant que
les actionnaires y croient. Et tant que t'es capable de démontrer une croissance et de l'amélioration, mais demander les actionnaires sortent, tu sais, Snapchat, tout le monde t'a bien excité, mais un peu moins, et Pinterest, on verra.
Ouais.
Tu sais, c'est la promesse.
Mais les actionnaires vont attendre, ils vont être patients à quel point, mettons, de façon générale.
Je vais donner un exemple. Demander, tu veux garder ton placement parce que t'es pogné avec. Comme moi, puis SNC-Lavalin, tu sais, je vais pas vendre mes SNC-Lavalin parce que bon, j'ai un petit placement puis il est un peu tard pour la perte, je l'ai pris, tu sais. Mais, regarde David Stee. Ils sont partis à 27$.
Ouais.
Et je t'annonce que dans les prochaines semaines, l'action devrait être en vente au dollar à moi et rendue 1,35. C'est une blague, c'est du mot comptable.
Mais une blague de comptable.
Mais tu sais, David Stee, ils disent, hey, on a une affaire, là. On va vendre en épicerie. On a fait une entente avec le Roblox puis on va augmenter nos points de vente en épicerie.
Ouais.
Bravo, c'est ça que tu aurais dû faire au jour 1.
Ben, c'est ça, parce qu'il y avait des points de vente propres à eux.
Points de vente partout.
Là.
avec des beaux dans des centres commerciaux qui coûtent une fortune.
C'était une belle expérience, par exemple, aller chez David City. Je suis obligée de leur donner, là. Évidemment, ça ne veut pas dire que ton modèle va fonctionner.
Ah oui,
mais tu avais une belle
ça?
Expérience quand tu allais chez David City. Tu pouvais goûter, tu avais différents kiosques pour...
Dans le fond, toi, tu aimes l'été sucré avec un local surexposé à la lumière. Puis
non,
le
moi, j'aime pas ça, par exemple. Honnêtement, j'aime pas ça. Mais je suis allée une fois puis j'étais capable de dire que l'expérience client était le fun. Mais c'est vraiment
vois,
pas mon produit.
À faire maintenant, c'est de coups. Ils veulent couper dans les coûts parce que c'est ça le problème. Ils ont bien trop de coûts, donc ils vont réduire l'offre. En diversité. Mais ils vont pousser plus pour des sachets, tout ça. Et on nous dit, on veut attirer la clientèle homme, et tout ça. C'est bien beau de voir qu'il y a un marché pour les gars, mais encore faut-il qu'ils veuillent payer 4$ pour un thé pour emporter, ou bien t'acheter du thé vraiment cher, alors qu'à l'épicerie, le rationnel va regarder le pan de mur, va dire, oh, j'ai du choix.
C'est vrai que le thé, c'est assez féminin, par exemple. Je suis obligé d'admettre, là.
Ben, si moi, je suis un gars, tu sais. Puis j'ai des souliers roses, puis je bois du thé. Tu vas peut-être me juger.
T'as des souliers roses?
Mais j'adore le thé, parce que bon, ça, c'est personnel, mais.
Et le kombucha
y a le choix.
Aussi.
Hein, pardon?
Tu bois du kombucha aussi, je pense.
Un peu moins, c'est bien sucré, ça.
Ouais, c'est vrai.
Mais tu l'as dit, le kombucha, c'est une autre offre sur le marché. Donc, le thé, là. Tu sais, David City avait un avantage pour avoir créé une grosse marque, mais avait tellement des coûts fixes élevés. Ils se sont pris pour le Starbucks du thé, mais ils ont oublié une chose. C'est pas la même clientèle. Tu peux pas générer la même marge. Donc oui, tu peux vendre en épicerie un produit, mais je vais pas aller m'ouvrir des magasins d'huile d'olive. Tu sais, moi, je vais pas m'ouvrir des magasins en centre commerciaux d'huile d'olive. Je vais vendre ça à l'épicerie.
Mais les gens voient gros un peu quand ils partent un nouveau produit comme ça. Ça se peut-tu? On dirait que les gens veulent voir le nom de leur marque sur une porte. Là. Ils veulent avoir leur local propre à eux. Ils veulent que ce soit unique. Mais il faut penser aussi que ça s'appelle des coûts fixes, là, puis que ça peut coûter cher. C'est le cas de Caroline Néron. Honnêtement, c'est exactement la situation de Caroline Néron.
C'est beaucoup de coûts fixes et souvent, c'est un bien de consommation encore moins régulière.
Tandis que
dans certains centres commerciaux, il y a des gens qui y vont souvent. Donc, il y a le volume qui est important. Et David City fait une grosse marge. Et quand l'amateur de thé découvre le thé, mettons, avec David City, qui est une bonne chose, après ça, il se revire de bord puis il se dit, OK, du thé au jasmin, là, roulé en petite boule, là, je peux-tu en avoir ailleurs pour moins cher? Ah ben oui. Donc, faut que tu regardes aussi le modèle d'affaires des concurrents. Tu sais, Camellia Sinensis sont allés vraiment plus lentement. Sont allés, au lieu de vendre une image de marque, le thé, c'est cool, ça, sont allés, non, on va respecter les ancêtres du thé, on va respecter l'héritage, la façon de faire, on va y aller doucement, on va faire des associations avec des restaurateurs qui vont mettre leur poche avec le Camellia Sinensis dans la tasse quand les gens vont y aller, ils vont créer une habitude comme Coca-Cola, puis dire, hey, c'est bon Camellia Sinensis, je vais m'en acheter. Et, tu sais, plus lentement, une croissance plus organique, des profits, et peut-être pas l'ambition d'aller en bourse avec du thé. Tu sais, des fois, faut que tu te demandes, est-ce que mes résultats vont être infusés ou vont être poches?
Ouais. C'est vrai. C'est vrai. Mais la décision d'aller en bourse pour une entreprise, là, tu te bases sur quels critères avant de prendre cette décision?
Trois affaires. Un, tu veux passer à go et réclamer ton argent. T'as des gens qui investissent de façon privée puis qui veulent passer à go. Mais là, faut que tu convainques les investisseurs. Alors, faut que t'ailles soit une rentabilité démontrée, ce qui n'était pas le cas tout de suite, ou un potentiel. Donc, ce que tu vends, c'est le rêve de faire fortune, de la rentabilité déjà existante, ou tu veux passer à go, mais ça convainc pas des investisseurs, mais c'est implicite. Mais d'habitude, quand tu vas en bourse, faut que tu aies une raison. La raison première, souvent, c'est de dire, on veut prendre de l'expansion, on a besoin de capitaux, puis grâce à vous, on va aller faire plus d'argent encore. Donc, Beyond Meat, c'est un bon exemple. Oui, les premiers actionnaires vont faire de l'argent, mais c'est peut-être dire, on veut prendre le marché nord-américain de la bouffe végétale qui copie la bouffe animale. Mais là, il y a un moment donné, le risque pour Beyond Meat, tu sais quoi? C'est que les gens commencent à cuisiner de façon végétarienne, point. Tu sais, moi, je peux bien me faire un dal indien sans nécessairement avoir besoin de copier de la viande. Je peux me faire des galettes moi-même chez nous.
Ouais, de pois chiches?
De pois chiches, sans acheter de Beyond Meat. Puis me dire, ma galette de pois chiches me coûte 25 cents. Mm-hmm. Je vais peut-être faire ça en place.
Il y en a des affaires à faire avec des pois chiches, je vais te dire. Là. Ouais. Je suis en train de découvrir ça.
Tu sais pourquoi c'est mes pois préférés?
Pourquoi?
Parce qu'ils sont chiches.
Eh mon Dieu, t'es en feu un matin sur les
ailes. C'est le comptable, jeu de mots. J'ai une carrière d'humoriste sol. Moi puis Sol, on est pareil. Hein. On fait de l'humour, mais moi, contrairement à lui, je suis Sol à Henri.
Hey, en passant, tout le monde l'a trouvé drôle. Il y a plein de monde qui écrivent au 25 des 2. C'est ça, il était bonne, sa joke infusée, poche. Je pense que je suis la seule qui l'a trouvé bonne.
Mais je peux t'en faire plein, là. Infusée, poche, diffus, filtré. Tu sais, on peut y aller longtemps, mais l'important, là, c'est que ton rendement ne prenne pas trop l'eau.
Excellent. Oh. Quelle belle conclusion. Merci Pierre-Yves.
Salut.
7h36.
La chronique de Pierre-Yves McSween, présentée par Ginsburg Gingras. Surmontez vos dettes. Contactez gratuitement un syndic autorisé en insolvabilité de Ginsburg Gingras. GinsburgGingras.com/dette.
Segal, le midi. Lundi au vendredi, dès 11h, au FM 93.
Vous voulez vendre votre maison? SimonLaberge.com. Les courtiers immobiliers numéro 1 au Québec du palmarès Via Capital 2018. Ils ont les connaissances, l'expérience et le réseau de contacts. Vous voulez vraiment vendre votre maison? SimonLaberge.com. Courtier immobilier Via Capital. SimonLaberge.com.
Vous pensez à changer de voiture? Pourquoi pas une voiture d'occasion de chez Beauport Hyundai? Chez nous, les véhicules sont certifiés. Ils passent une inspection en 125 points. On regarde le moteur, la transmission, les freins, la suspension, la conduite, en plus des systèmes électriques de chauffage, de climatisation, puis évidemment la carrosserie et l'intérieur. Je vous le dis, on n'y est pas chez Beauport Hyundai. Il y a une politique d'échange de 5 jours garantie, 0 $ de frais de préparation et d'administration. Pour une bonne voiture d'occasion, il n'y a qu'un seul endroit. Toujours et seulement chez Beauport Hyundai.
Faites le tour du monde. Dans le plus grand parc de type Legoland en Amérique, Ludovica, le monde miniature. Voyez plus de 3000 bâtiments en briques. Québec, New York, Disneyland, Dubaï. Ludovica Miniland, place Fleur-de-Lys, entrée 1. Visitez ludovica.ca.
Pour communiquer avec notre studio, texto 25 226.